bienvenue à tous pour cette première ouverture de l'Université populaire aux archives municipales. Donc, bienvenue aux archives municipales à la Confluence, au pied de la gare de Perrache. Vous verrez, si vous le souhaitez, dans cette salle, sur les panneaux qui sont là, l'émission des archives. Mais bon, j'espère que ça ne vous déconcentrera pas pour écouter nos intervenants de ce soir. Alors, je suis ravie de vous accueillir et d'accueillir l'Université populaire aux archives de Lyon. Il y a quelques années, en fait, ça va bientôt faire 10 ans, j'avais vu dans le journal l'annonce de la création de cette université avec les premiers cours qui y étaient donnés. Et puis j'avais trouvé effectivement cette initiative intéressante et je m'étais dit, ah ben c'est bien, il y a des cours qui m'intéressent, je vais y aller. Et puis ben, comme tout le monde, le temps a passé et je n'y suis jamais allée, mais finalement l'université populaire est venue jusqu'aux archives municipales. C'est quand même assez merveilleux finalement. Et si je suis ravie de vous accueillir ce soir, d'accueillir l'université populaire, c'est bien sûr pour l'intérêt de ce qui est proposé. J'ai pu en avoir une petite avant-première la semaine dernière à l'ouverture au TNP. Et puis aussi parce que finalement, ce n'est peut-être pas non plus tout à fait par hasard que l'université populaire se trouve aux archives de Lyon. En tout cas, ce sont des beaux rendez-vous et qui s'inscrivent à la fois, qui ont un sens en tout cas par rapport aux archives municipales et qui s'inscrivent à la fois dans l'histoire de Lyon à certains moments de son époque, dont les archives gardent la trace, et puis aussi dans certaines actions que nous essayons de conduire modestement. Donc quelques éléments, bien sûr, j'aime bien les clins d'œil de l'histoire, et donc l'université populaire dans un lieu qui à un moment donné incarne la mémoire et l'histoire de Lyon, c'est aussi marquer le lien entre ce qui a pu se passer, alors sans remonter non plus au temps très ancien, déjà au 19e siècle, au tout début du 19e siècle, la ville de Lyon, donc l'administration municipale, les maires de l'époque avaient engagé une politique d'éducation et de formation de la population. En particulier, les maires Faye de Satonnet, Thomas Rambaud et surtout Prunel, Gabriel Prunel, qui était un médecin et qui lui-même a donné un certain nombre de cours. Alors, ces cours étaient publics et gratuits. Ils s'adressaient à la population et en particulier à la population des ouvriers en soierie, mais pas que. Et ils avaient des sujets extrêmement variés. C'était des sujets, on va dire, scientifiques ou de sciences expérimentales, comme par exemple ou de sciences de la vie et de la terre comme on dirait maintenant. Il y avait des cours de chimie, des cours de physique, des cours de mécanique, des cours de botanique, des cours d'anatomie adaptée aux arts, toute une série de cours variés qui étaient donnés par les responsables d'institutions de cette époque-là, qui étaient souvent de très grands savants, comme par exemple le médecin Gilibert ou Seringe, qui donnait des cours de botanique, ou Tabarot, qui était directeur de l'école La Martinière, qui donnait des cours de mécanique. Et aux archives municipales de Lyon, nous conservons des séries d'affiches qui étaient donc affichées sur les murs de la ville, qui proposait ces différents cours. Donc là, c'est vraiment une initiative municipale. Et puis, quand on avance un petit peu dans le siècle, en arrivant à la fin du siècle, d'autres initiatives ont vu le jour qui étaient soit, on va dire, des initiatives syndicales, soit issue du mouvement de pensée du catholicisme social. Donc dans des secteurs qui sont quand même différents. La bourse du travail, qui à cette époque-là se trouvait pas où elle est actuellement, mais qui occupait l'ancien théâtre des variétés, avait lancé aussi à la fin du 19e siècle toute une série de cours à l'usage de ses membres, et s'était créé au sein de la Bourse du Travail un théâtre d'éducation populaire qui donnait un certain nombre de spectacles. On le sait parce qu'effectivement il avait besoin de louer de la salle et il demandait des subventions à la ville. Donc des initiatives différentes. En même temps, à peu près à la même époque, le mouvement du catholicisme social, qui était très développé à Lyon, se constitue autour d'un ensemble d'associations qui portent le nom général de la chronique sociale, mais qui recouvre en fait plusieurs associations, la chronique sociale étant maintenant plutôt une maison d'édition. Mais il y avait un certain nombre d'initiatives, et en fait la chronique sociale est fondée en 92 pardon, juste après l'encyclique Rerum Novarum de Léon XIII et par Gonin, et en fait elle fait suite à une série d'initiatives qui avaient eu lieu antérieurement, et je vais juste citer le passage d'une personne à Lyon, enfin qui d'ailleurs a fait ses études à Lyon, qui est Frédéric Ozanam, qui quelques années plus tôt, 50 ans plus tôt, donc avait fait ses études à Lyon, avait fondé les conférences de Saint-Vincent, de Paul, et qui a été sollicité par la ville de Lyon pour ouvrir un cours public gratuit de droit commercial. Donc on voit bien les liens, ce que je vous disais au début, et puis le mouvement du catholicisme social, et avec la création en 1904 des semaines sociales qui existent toujours. La prochaine aura lieu à Lille en 2014, qui en fait était conçu comme une sorte d'université d'été pour former les travailleurs, et puis pour le débat d'idées. En 1927, par exemple, à Nancy, c'était la question de la femme dans la société. Et donc, si je vous parle de tout ceci, c'est parce que, bien évidemment, les archives municipales de Lyon conservent bien sûr les archives publiques, donc les cours publics de la ville, mais aussi un certain nombre d'archives privées, et en particulier le très riche fonds de la chronique sociale. Donc on a quelque chose à voir dans les fonds qu'on conserve avec l'éducation populaire dans ces différentes acceptions. Et puis aussi, bien sûr, aux archives, ben nous essayons d'avoir un certain nombre d'actions auprès du public le plus large possible, et nous sommes signataires de la charte de coopération culturelle de la ville de Lyon, et nous essayons de faire autant que faire se peut, mais c'est pas toujours très facile, dans ce qu'on peut proposer, des rencontres, des débats, de faire cohabiter les connaissances académiques et les savoirs populaires. Et donc on travaille avec un certain nombre d'associations, et sans faire de publicité, mais le 22 octobre, nous aurons la présentation en avant-première d'un film de pied ferme sur la question des rapatriés d'Algérie et de leur intégration dans le quartier de la Duchère, et qui est un film qui est réalisé par Béatrice Dubel, et donc qui l'atelier Grand Ensemble, qui est cinéma populaire de Villeurbanne. Voilà. On essaye, en fonction de nos moyens, d'être dans cette ligne. Et dernier clin d'œil, et j'en finirai par là. Autre clin d'œil de l'histoire, c'est finalement peut-être pas par hasard que l'université populaire est à la fois au TNP et aux archives municipales. Ici, vous êtes dans l'ancien centre de tri postal de Lyon-Gare, qui a été un haut lieu des luttes en 1936, et de la contestation sociale en 1936, en mai 68, en 1974, au moment de la grande grève des postes. Et en mai 68, il y avait un bouillonnement, on va dire, culturel et théâtral à Lyon, ou plus exactement à Villeurbanne, et Roger Planchon dirigeait ce qui était avant le TNP, c'est-à-dire le Théâtre de la Cité, qui s'appelait au départ Théâtre de la Cité ouvrière de Villeurbanne. Et donc le Théâtre de la Cité est venu dans ces lieux pour présenter des spectacles et discuter avec les postiers qui se trouvaient en grève, et ceci est raconté entre autres par quelqu'un qui était un militant très actif, qui est décédé depuis, mais dont la famille nous a remis les écrits. Donc j'y vois quelque chose d'assez étonnant, et en tout cas de jolis rendez-vous, et je remercie Françoise Bressa d'être venue me voir un jour pour nous proposer de faire un bout de chemin ensemble, et je suis vraiment très, très heureuse et honorée que ça puisse se faire dans l'institution que je dirige. Voilà.
Donc merci pour cet accueil, puis pour nous avoir resitué dans ce lieu d'une mémoire dynamique et vivante. C'est un lieu où effectivement on est aussi à la rencontre des gens. Et aujourd'hui donc on attaque notre première conférence, puisque la semaine dernière on a fait une présentation des différentes interventions qui auraient dans le cadre de l'Université Populaire cette année. Là on va donc attaquer par une conférence qui est autour de la notion de bien commun, et plus particulièrement de savoir en bien commun, qu'on va aborder à deux niveaux différents. Dans un premier temps, on va donner la parole à Claire Brosseau, qui est de l'Université de Lyon et qui est coordinatrice d'un festival qui a lieu en ce moment et qui s'appelle Bien commun, enfin Ville en bien commun. Alors, je vais essayer de tomber dessus. Ville en bien commun. Donc, Ville en bien commun, c'est une initiative qui a démarré il y a quelques années de ça à Brest. Mais je pense que Claire, tu reviendras peut-être un petit peu dessus, et qui est aujourd'hui un festival qui se fait dans la francophonie, donc qui est organisé tout ce mois d'octobre dans plusieurs villes du monde francophone autour justement de la question des biens communs. Mais ici ce soir on va plus particulièrement donc partir des biens communs, aller vers les savoirs en biens communs. Et donc dans une deuxième partie, Françoise et moi-même, on reviendra sur les relations que l'Université Populaire entretient avec les savoirs en bien commun, comment elle se positionne par rapport à cette question, en souhaitant que Philippe Corcuff nous rejoigne pendant notre présentation, mais il a cours jusqu'à 20h, donc il devrait arriver pendant ce temps-là. Et puis avec cette idée que bien sûr l'Université Populaire, eh bien, c'est un lieu d'échange et de partage, et que j'espère bien que ce qu'on va vous présenter va susciter des questions, des réflexions, des réactions, des illustrations de votre part, et donc que ce sera derrière un temps d'échange qu'on clôturera par un petit pot derrière. Voilà. Claire, je cède la parole.
Ben bonjour, donc moi je suis Claire Brosseau. Comme disait Vincent, je suis magistère à l'Université de Lyon, mais je viens surtout ici au titre de mes activités associatives et citoyennes. Donc je suis membre d'une association qui s'appelle VECAM, qui est une association qui intervient à l'échelle de la francophonie sur le thème générique de l'appropriation sociale des technologies et des connaissances. Et donc on a pas mal œuvré ces dernières années autour de la question des biens communs de la connaissance, à travers différentes actions, et notamment la publication d'ouvrages sur ce thème-là, chacun un peu plus tard. Et puis, au titre de cette association et par ricochet, on va dire, à travers différentes organismes qui se sont succédés, j'ai été amenée avec Vincent et un ami qui est ici présentement, moi, à coordonner, à animer le réseau Ville en bien commun à l'échelle de Lyon. Et donc le festival Ville en bien commun, c'est un festival qui a lieu en ce moment, en octobre, à l'échelle de la francophonie, et qui a pour vocation de mettre en visibilité et de donner à rendre palpable cette notion de bien commun à travers la mise en visibilité justement d'initiatives issues soit du milieu associatif, soit des institutions, soit du privé éventuellement aussi, des initiatives portées par des citoyens qui proposent une idée, une mise en pratique des communs. Alors concrètement, ça peut être des jardins partagés, du logiciel libre, de l'art qui est en Creative Commons. Je reviendrai sur tous ces exemples-là tout à l'heure. Donc voilà, ce festival a lieu dans le courant du mois d'octobre et on a 25 initiatives à Lyon qui se déroulent du 6 au 20 octobre, hein, grosso modo. Et il y a une initiative transversale, une conférence débat qui se déroule samedi prochain, donc le 12, à laquelle vous êtes bien évidemment invités. Et si vous avez envie d'en savoir plus à l'issue de ce type exposé, eh bien, soyez les bienvenus à cette conférence débat le 12 octobre prochain à 9h. Et c'est sur le domaine de l'Université Lyon 1, le domaine Rockefeller à Station Orange-Blanche. Donc, mon rôle ici, c'est de vous introduire un petit peu à gros traits la notion de bien commun et de savoir un bien commun. Donc, cette notion, elle est aujourd'hui assez floue, mais disons qu'elle recouvre quand même un certain nombre de cadres de pensée, surtout pour l'action d'ailleurs, et pas tant un concept, mais surtout un cadre de pensée pour l'action, qui est particulièrement porteuse en ce moment, parce que cette notion permet de repenser des modèles de développement alternatifs ou différents que ceux que l'on a aujourd'hui, dans un contexte de crise économique où le modèle économique actuel est remis en question, dans un contexte de crise politique, la crise de la représentativité politique aujourd'hui pose question, et de crise écologique également, puisque on est dans une situation où on est confronté à la rareté des ressources et on doit y faire face. Donc les biens communs, c'est une manière de sortir de la dichotomie marché contre État. C'est une manière de repenser le développement, non pas sous l'angle de la compétition, mais sous l'angle de la coopération. Et c'est une manière de penser aussi un modèle de développement plus respectueux de l'homme et de son environnement. La notion a été divulguée principalement par plusieurs voix, mais au plan académique, il y a une économiste qui fait référence, qui s'appelle Ingeborg Ostrom, et qui a été prix Nobel d'économie récemment, qui est morte l'année dernière d'ailleurs, et qui a vulgarisé cette notion. Le développement des réseaux numériques aussi depuis maintenant 20 ou 30 ans a permis à cette notion de s'installer durablement dans la société, parce que les réseaux via notamment toute la communauté du libre a permis à la notion de bien commun de s'installer. Et puis elle s'est divulguée aussi grâce à ces petites initiatives parcellaires que l'on essaie précisément de rendre visibles grâce au festival Ville en bien commun. Donc grâce à ces petites initiatives parcellaires, considérées par certains comme étant marginales, donc cette notion permet d'intégrer précisément ces différentes initiatives. Alors, c'est une notion au contour assez flou encore, hein, et qui n'a pas de définition à proprement figée. Néanmoins, on peut considérer qu'elle est assimilée à des ressources qui relèvent d'une appropriation, d'un usage ou d'une exploitation collective. Et donc par rapport à cette définition qui n'en est pas tout à fait une, il y a deux points d'accroche, c'est la ressource et la gouvernance. Et c'est là-dessus que je voudrais insister maintenant. de manière à ce que vous puissiez appréhender vraiment de quoi il s'agit. Alors, la ressource dans le bien commun, qu'est-ce que c'est? C'est, ça peut être, si elle est matérielle, ça peut être une rivière, un four à pain, ça peut être une machine-outil, une semence, et si elle est immatérielle, dans le cas présent du savoir, c'est immatériel, ça peut être un code génétique, un code logiciel, un morceau de musique, une formation. Donc là, c'est ici le capital non tangible, intangible. Donc, la caractéristique de cette ressource, les caractéristiques de ces ressources, elles sont assez proches de celles qu'on attribue généralement, ou du moins que la théorie économique attribue généralement aux biens publics. Donc, dans les biens communs, on a souvent affaire à des biens qui sont non rivaux. Ce que ça veut dire exactement, ce sont des biens pour lesquels les usages ne se détruisent pas. C'est-à-dire chacun peut avoir accès à un bien sans qu'il ne soit détruit. Plusieurs individus ou personnes peuvent en bénéficier. Prenons le cas d'un océan. Un océan, ça ne peut pas être détruit, du moins en théorie, encore une fois. Et tout le monde peut en bénéficier. Il n'y a pas d'usage réservé de l'océan pour tel ou tel. Une autre caractéristique de ces biens communs, c'est qu'ils sont non exclusifs ou excluables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas empêcher une personne d'avoir accès à la ressource ou de faire usage de ses biens. Si je reprends le cas de l'océan, tout le monde peut avoir accès à l'océan de la même façon que tout le monde peut avoir accès à une rivière. Sur Internet, si on prend le cas du savoir, tout le monde peut avoir accès au contenu Internet. Et dans le cas du savoir et de la connaissance, il y a une caractéristique supplémentaire, c'est que ce sont des biens dits cumulatifs. C'est-à-dire que la ressource, dans le cas présent, elle peut croître. Prenez le cas de l'encyclopédie Wikipédia, elle croît. Et ce sont des centaines de milliers de personnes qui la font croître. Donc ça veut dire que la production de la ressource, là, pour le coup, elle engendre d'autres biens. Alors les ressources de ces biens communs sont généralement partagées ou gérées sur un mode non propriétaire. On dit bien généralement, c'est-à-dire qu'elles sont en commun. Mais c'est pas une condition nécessaire. Prenons le cas d'une rivière. Une rivière, elle peut être, on peut y avoir accès, mais par contre, il peut y avoir une privatisation de ses abords. Donc, dans cette figure, ça n'est pas forcément une gestion en commun. Ce qui va déterminer si les biens sont en commun, si les biens sont marchands ou issus du secteur public, ou en tout cas du secteur public, sont les régimes d'accès, de partage et de circulation qu'une communauté va choisir de lui appliquer. Je vais prendre un autre exemple. Un four à pain dans un village. Le four à pain, il peut être installé par une mairie et géré par la mairie. Dans cette figure, on considère qu'il est public. Il peut être mis à disposition par le minotier ou par le boulanger local, et donc c'est une gestion privée. Il peut être aussi géré par l'ensemble des habitants du village qui auront défini les règles de sa gestion et de son accès. Dans cette figure, ce sera un bien commun. En fait, les biens communs, c'est une notion qui n'est pas nouvelle, hein. Ça date du Moyen Âge, et à l'origine c'était les communaux, c'était les terrains de pâturage sur lesquels allaient paître les moutons ou les vaches, notamment en Angleterre. Et à partir du XVIIe siècle, ces biens qui étaient communs, donc communément partagés par l'ensemble des paysans qui mettaient à disposition les ressources du sol pour leurs bêtes, pour l'ensemble des membres du village. À partir du 19e siècle, il y a eu ce qu'on appelait une enclosure, c'est-à-dire que les biens ont été privatisés. Les terrains sur lesquels allaient paître les animaux, les terrains ont été bordés par des enclos. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a eu un basculement d'un statut de commun à un statut de bien privé. Et ce basculement n'a fait que s'accroître depuis lors. La ressource seule n'est pas un bien commun. Et c'est là où on arrive à la deuxième accroche, qui est la gouvernance. La ressource, on peut disposer d'un savoir, on peut disposer d'un code logiciel sur Internet, ça ne suffit pas pour dire que c'est un bien commun. Puisque par exemple, une licence propriétaire sur Internet, celui qui l'a réalisé le logiciel, il dispose d'un code, mais ça ne garantit pas pour autant le fait que ce soit en commun. Là où ça devient une mise en commun, c'est à partir du moment où il y a une communauté qui décide de s'auto-organiser pour gérer ses conditions d'accès et la protéger. Donc on est dans un cadre qui, là, régit la régulation sociale et politique de la ressource. Donc la communauté va être amenée à élaborer des règles de gouvernance qui vont permettre à la ressource de la faire vivre ou de la faire croître. Dans le cas de Wikipédia, c'est la faire croître. Dans le cas d'un jardin partagé, eh bien, il y a une communauté qui définit des règles d'usage et qui permet à la ressource, le sol et ses productions. Les communautés, elles peuvent être de taille variable. On peut avoir des communautés de quelques personnes. Par exemple, dans le projet Ville en bien commun, à quelques dizaines de kilomètres de Lyon, on a une communauté de un mot qui s'est constitué en abritage loupé et qui considère, parce qu'il a développé des modes de production alternatifs et respectueux de la nature, et que ces modes de production sont partagés communément par l'ensemble de ses habitants, quelques-uns, une petite dizaine, et qui considèrent qu'ils produisent du bien commun à l'échelle de leur communauté. Mais ça peut être aussi une communauté avec des centaines de milliers, si je reprends le cas de Wikipédia, voilà, il y a des centaines de milliers de personnes qui contribuent. Ça peut être des communautés qui sont ancrées sur un territoire, ou pas. À l'échelle d'un quartier, on a des communautés qui proposent de produire des biens communs. Je reprends l'exemple des jardins partagés. Pour en citer quelque chose de plus précis, aujourd'hui, il y avait à la Guillotière, il y avait une animation autour du jardin d'Amarante, avec plusieurs acteurs locaux, et donc là c'est ancré sur un quartier, sur un territoire, et puis ça peut ne pas l'être, ça peut être complètement déterritorialisé, et dans le cas du savoir, les communautés sont souvent déterritorialisées, en tout cas quand elles passent par le vecteur internet et le vecteur de l'information. Et puis les formes de gouvernance, elles peuvent être très variables. C'est-à-dire qu'elles peuvent être horizontales, sans hiérarchie apparente, en tout cas sans chef avec des sous-chefs et des ramifications de type pouvoir vertical, ou elles peuvent fonctionner aussi par délégation, elles peuvent être informelles ou très codifiées. Si on prend l'exemple du collectif Ville en bien commun qui s'est créé il y a 4 mois pour porter le festival à Lyon, on est dans un dispositif plutôt informel et sans règles apparentes en tout cas, qui permettent à la communauté d'exister et pourtant la communauté elle existe. Chacun contribue, notamment sur Internet mais pas seulement, chacun contribue à la mesure de ses moyens et à la mesure des enjeux qu'il porte autour des biens communs à la création du projet. Donc par rapport à ce cadrage général, je voudrais maintenant mettre l'accent sur les enjeux des communs pour le savoir et la connaissance. Mais avant de passer à cette partie-là, est-ce que vous avez des questions ? Le savoir Et la connaissance, on peut dire que le savoir, en fait, c'est l'ensemble des connaissances qui sont, ou des aptitudes qui peuvent être reproductibles par l'homme. C'est la visée applicative des connaissances, pour aller vite, hein. Le savoir est devenu aujourd'hui le moteur de transformation des sociétés post-industrielles. Et c'est la raison pour laquelle les enjeux autour des communs des savoirs sont devenus également très importants. Au XIXe siècle, on avait une société dont l'énergie, pour laquelle l'énergie, la force de travail, les matières premières étaient des leviers de développement. Aujourd'hui, on a une société où, qui a été favorisée, bien évidemment, enfin, le savoir est devenu le moteur de nos sociétés post-industrielles, mais ça a été favorisé notamment par le développement des outils d'information et de communication, et surtout Internet. Et donc, aujourd'hui, c'est le savoir qui est le levier de développement de nos sociétés à travers ce que certains ont nommé la société de l'information, d'autres le capitalisme cognitif, d'autres encore le capitalisme informationnel. Et je cite seulement des gens comme Yann Mouillet-Boutan ou Manuel Castells qui se sont largement exprimés sur ces questions-là. Concrètement, ça veut dire que la capacité créatrice de l'économie, elle réside pas dans le fait de posséder des moyens de production, comme auparavant, et pas dans le fait de posséder des moyens de production matériels, par exemple une machine-outil. Dans le monde industriel au XIXe siècle, posséder des moyens de production, ça créait de la valeur beaucoup plus, et la force de travail créait aussi de la valeur, mais les conditions matérielles de production créent de la valeur. Aujourd'hui, ce sont les conditions immatérielles de production qui créent la valeur, qui créent la valeur économique. Et donc, c'est le fait de posséder du capital immatériel qui rend importante, qui place le savoir comme étant un élément important du développement de nos sociétés actuelles. Ce qui est produit aujourd'hui, la richesse qui est produite, elle est dans la tête des détenteurs des connaissances. C'est-à-dire, la richesse, la valeur économique qui est produite, elle puise sa force dans l'intelligence collective qui a permis à la connaissance d'exister. Alors, comment ça s'opère tout ça? Concrètement, pour que cette richesse devienne une valeur, pour que l'intelligence collective devienne une valeur économique, il faut mettre des droits de propriété et privatiser le savoir. On parle de captation de la richesse produite par l'intelligence collective. J'en reviens à l'histoire des enclosures dont je vous parlais tout à l'heure. Le savoir aujourd'hui, que ce soit à travers les droits de propriété industrielle ou les droits de propriété intellectuelle, il a tendance à être enclos, à être privatisé pour pouvoir créer de la valeur économique. Le principe c'est sur lequel ça s'appuie est le suivant. On isole un élément du savoir. Donc, en isolant l'élément du savoir, on crée de la rareté. Et de cette rareté va naître la richesse et l'abondance. Je vais m'en expliquer plus clairement sur la question des droits de propriété industrielle et sur la question du brevet. Les droits de propriété industrielle, elles permettent précisément de capter cette richesse produite par l'intelligence collective. Et le brevet a été généralisé ces dernières années, voire même ces dernières décennies. Et c'est le brevet qui est un outil de politique publique visant à protéger l'inventeur d'une contrefaçon et qui permet à cet inventeur ensuite, enfin, non pas l'inventeur, parce qu'il y a l'inventeur et il y a celui qui exploite l'invention. Et donc, le brevet permet de protéger l'invention et donne l'autorisation à celui qui va exploiter la ressource liée au brevet d'avoir le monopole sur cette exploitation. Donc là, pour le coup, s'agissant d'un exemple comme le vivant, vous n'êtes pas sans savoir que les débats autour de la privatisation du vivant sont des enjeux aujourd'hui particulièrement importants. Comment ça se passe concrètement, si je reviens à l'explication que je vous ai donnée tout à l'heure? Quand on veut privatiser le vivant ou ce qui relève de la ressource génétique globalement, on va isoler un élément dans la production du savoir, la connaissance. Ça sera un élément qui va structurer par exemple une molécule. Un élément qui va structurer une chaîne génétique, un élément fonctionnel ou un processus qui va être mis en valeur, et c'est ça la connaissance, c'est ce qui est produit par le monde de la recherche, principalement et l'innovation. Ça va être breveté, et ensuite, à partir du moment où c'est breveté, ça peut être exploité par un tiers de manière à faire des semences, des OGM, des médicaments. Donc c'est tout ce processus qui part de la connaissance et qui finalement est capté par le monde économique. Je vous donnerai qu'un seul chiffre. Entre 2010 et 2011, il y a une hausse des dépôts de brevets de plus 18,8%. Et je crois me souvenir que sur ce chiffre, les États-Unis, la Chine et le Japon représentent 82% de cette hausse. Alors, ce contexte de privatisation du savoir a des effets, bien évidemment, structurants sur le marché, mais il a des effets aussi structurants sur le monde de la recherche et de l'innovation. Alors, autre façon de produire de la connaissance aujourd'hui et de capter la richesse produite par l'intelligence collective, c'est le droit de propriété intellectuelle. Là, je vous ai parlé du droit de propriété industrielle qui permet d'exploiter des ressources liées à la connaissance, notamment via le brevet. Et elles sont principalement issues du monde de la recherche et de l'innovation. Les ressources qui sont privatisées ou qui font l'objet d'un droit de propriété intellectuelle sont plutôt des ressources liées à l'information et à l'Internet. On a parlé beaucoup au début, enfin il y a une quinzaine d'années, on parlait des noms de domaines qui faisaient l'objet d'un enjeu important, notamment parce qu'il y avait une société qui était autorisée à appliquer des noms de domaines sur des adresses URL sur les sites internet. C'est un débat qui maintenant est dépassé, mais ça montre que réflexions, toutes ces idées ont été largement débattues par rapport à la privatisation ou la mise en place de droits de propriété ou d'enclosure sur les réseaux sociaux. Autre débat qui a largement animé la communauté du net et du libre, la loi Hadopi qui garantit un droit d'auteur sur Internet. Le droit d'auteur, c'est un peu à l'image du brevet dans la propriété industrielle. Le droit d'auteur dans la propriété intellectuelle, c'est ce qui garantit des revenus d'exploitation d'une œuvre, par exemple une musique, elle est protégée par du droit d'auteur, et les revenus d'exploitation émanant de ce droit, si on peut dire, ce qui relève du droit patrimonial, le droit patrimonial a une valeur économique, et elle permet un revenu d'exploitation de l'œuvre. La question des licences aussi est une question qui a été largement débattue sur Internet et même beaucoup plus anciennement que la question de la loi Hadopi, puisque la question des licences, c'est pareil. Protéger un logiciel par une licence, ça n'est pas anodin. Ça engage également des formes d'enclosure du savoir. Et donc, maintenant que je vous ai expliqué le contexte général de la production du savoir, je vais vous montrer à travers trois exemples comment d'autres modes de développement existent, et de manière très concrète, sachant que ces modes de développement s'appuient bien évidemment sur le cadrage général que je vous ai présenté tout à l'heure sur les biens communs. Donc, les trois piliers des communs de la connaissance, ils sont principalement issus du monde de la recherche, du réseau, donc du réseau numérique et du vivant. C'est-à-dire que dans ces trois domaines, On a des communautés qui proposent des formes de développement alternatives, qui proposent des ressources. Alors, quand il s'agit de réseaux, ce sont des codes logiciels. Quand il s'agit de vivants, ce sont des codes génétiques, hein, les ressources en question. Quand il s'agit de recherche, innovation, c'est la question du brevet qui est en jeu. Et donc, ce sont des gens qui proposent des formes alternatives de production de la ressource et des formes alternatives de sa gestion et des droits d'accès aux ressources. Dans la recherche et l'innovation, quelles sont ces formes dites alternatives de production des ressources en bien commun? Donc, dans le domaine des sciences ouvertes et participatives, on a des initiatives qui vont proposer d'aller chercher des données, par exemple, des données pour produire de la science, des informations, que le citoyen puisse aller chercher librement des données, et qu'il puisse les exploiter via une formation ou une aide, de manière à construire lui-même ce qu'on appelle des corpus de connaissances. On a aussi des initiatives comme celle portée par une association que vous connaissez peut-être, qui s'appelle l'Outil de Brouilleur, qui vont mettre à disposition des connaissances issues de la science, qui vont les vulgariser au moyen d'outils pédagogiques et d'outils de médiation pour les enfants notamment. Et donc ça participe d'une forme de science ouverte et participative où la science n'est pas privatisée par un ou exploitée par deux, mais est diffusée et diffusable à l'ensemble des personnes qui sont concernées par sa production et sa gestion. Dans le domaine de l'innovation, je ne vais pas tout développer, mais dans le domaine de l'innovation, on a aussi des choses qui commencent à émerger, notamment dans le secteur de l'innovation sociale, où on prend compte non pas qui va permettre de posséder un bien, mais plutôt ce qui va permettre d'utiliser ou d'avoir un usage de ce bien. Il y a des formes d'innovation sociale comme l'économie collaborative aujourd'hui qui permettent non pas d'avoir une propriété d'un bien, mais de faire usage de ce bien sans pour autant en avoir la propriété. On a aussi des Fab Labs. Alors les Fab Labs, c'est un mouvement qui est né dans le monde anglo-saxon et qui permet de faire de l'innovation avec le système D ou la bidouille, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il y a des ateliers qui se créent à Lyon, il y en a un, et puis dans d'autres villes, il y en a, et qui permettent tout simplement de fabriquer des objets avec quelques petits outils de base et qui cette fabrication n'est pas issue de tout un processus industriel, mais elle est issue de l'imagination de citoyens comme vous et moi, bon, un peu intéressés quand même par la technique, mais voilà, elle est issue de l'imagination et de la production de citoyens comme vous et moi pour fabriquer des objets, et des objets non manufacturés, mais des objets qui permettent d'avoir une utilité sociale, voire même économique. S'agissant du réseau, alors du réseau numérique, évidemment, je prends quelques exemples. Hein. Mon souhait n'est pas forcément d'être exhaustif, mais je prends quelques exemples. On a bien évidemment Wikipédia, que vous connaissez, hein, l'encyclopédie en ligne qui permet à des centaines de milliers de personnes d'avoir accès à la connaissance. Et c'est une connaissance qui s'enrichit par l'apport des contenus de chaque personne qui est supposée aller sur l'encyclopédie. On a tout le mouvement largement représenté dans le festival Ville en bien commun, tout le mouvement du logiciel libre et tout le mouvement de l'Internet libre. Ce sont des communautés qui prônent une utilisation de la ressource Là, c'est-à-dire, elles créent elles-mêmes la ressource, par exemple, les artisans du logiciel libre créent des logiciels libres. Et cette ressource, elle n'a pas vocation à être exploitée par un tiers. Elle n'a pas une valeur marchande en tant que telle. Par contre, ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas de valeur économique dans le système logiciel libre. Mais ce qui va créer la valeur, ce n'est pas la ressource. C'est le fait, par exemple, de faire de la formation autour du logiciel, le fait d'avoir un support technique sur le logiciel. Ce n'est pas le fait de vendre le logiciel qui va créer la valeur. C'est l'usage du logiciel en tant que tel qui va créer la valeur. On a aussi tout le mouvement plus récent encore des archives et des données ouvertes. À Lyon, vous savez peut-être qu'il y a un projet de mettre à disposition des données qui est en émergence et qui va très probablement bientôt s'installer. Et donc, c'est un projet porté par la ville. Clairement, c'est un projet qui vise à mettre à disposition de ceux qui en ont besoin des données issues produites par différents acteurs industriels, mais pas que, hein, aussi des données produites par des représentants de la collectivité territoriale. Donc ça, c'est un exemple de mise à disposition de données ouvertes. Je citerai aussi OpenStreetMap, qui est donc collectif Ville en bien commun et Lyon en bien commun également, qui a pour but de cartographier librement le territoire, comme le ferait Google Maps, sauf que là, ce sont les citoyens les gens qui contribuent à la réalisation de la carte. Et puis enfin, le vivant, je citerai seulement deux exemples. Un des viviers les plus importants par rapport au bien commun concernant le vivant, c'est celui des semences, notamment à travers le réseau Semences Paysannes, qui œuvre pour garantir la biodiversité et pour garantir également la chaîne de transmission du savoir-faire traditionnel entre paysans. Donc le savoir-faire traditionnel, là aussi, c'est un des enjeux par rapport à ce que je expliqué tout à l'heure, hein, des enjeux alternatifs qui œuvrent à l'inverse de la privatisation, puisque dans le savoir-faire traditionnel, qui peut être basé sur des semences ancestrales par exemple, qui peut être basé aussi sur des méthodes des médecines alternatives ou douces, qui peut être basé sur des formes héritées de la ressource. Donc ces savoir-faire, ces nouvelles, ces façons, ces formes héritées, elles constituent là aussi, en tant que savoir, une ressource qui permet d'être mis au pot commun en quelque sorte, à l'inverse de la ressource qui aura été isolé, dont on aura extrait un élément pour en faire un brevet, là, c'est une ressource qui existe et dont on extrait l'héritage pour en faire un bien commun. Donc à travers ces exemples qui recoupent bien évidemment l'ensemble des non pas des définitions, mais du cadrage général que je vous présentais tout à l'heure, on voit bien que le savoir, c'est un enjeu particulièrement déterminant aujourd'hui, mais difficilement appréhendable parce que peu visible. Autant on peut être particulièrement étonné ou particulièrement investi par quelque chose qui est visible ou matériel quand on a une partie d'un océan qui est polluée par exemple par une marée noire, c'est visible, on se rend bien compte que la ressource là, elle est plus non rivale, elle est rivale puisqu'elle empêche certains d'avoir accès à la ressource. Dans le savoir, c'est beaucoup plus difficile à appréhender puisque on est dans un cas de figure où encore une fois, ça n'est pas très visible et pas forcément matériel. Il faut, et c'est d'ailleurs le privilège de la communauté des informaticiens, il faut vraiment être au cœur des dispositifs techniques pour pouvoir se rendre compte des effets produits et des effets massifs et de la place aujourd'hui, des enjeux aujourd'hui du savoir dans notre société post-industrielle. Et donc, les principaux acteurs qui proposent des formes alternatives de production du savoir à travers les biens communs sont souvent des gens qui sont dans les milieux dans lesquels on est au cœur de la production de la ressource. Donc des informaticiens pour le numérique, le réseau, des chercheurs pour tout ce qui relève des brevets ou de la science alternative, et puis des paysans ou des agriculteurs pour tout ce qui relève du vivant, ou même des chercheurs en médecine qui repensent un peu les choses différemment. J'en ai terminé avec ces éléments concernant le savoir. Je vais peut-être vous donner quelques références maintenant. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur le site de VECAM, hein, l'association dont je vous ai parlé. Il y a pas mal d'articles sur les biens communs et pas mal de choses aussi qui concernent toute la société de l'information et la communauté du libre. Sur le site de CF Édition, c'est une maison d'édition, il y a des ouvrages qui concernent les communs de la connaissance. Donc il y a une collection qui vient de sortir et qui propose trois ouvrages. Enfin, la collection vient de sortir en tant que telle, mais les ouvrages ne viennent pas de sortir. Et il y a trois ouvrages, dont celui-ci, Libre Savoir, les biens communs de notre connaissance. Pouvoir savoir, le développement face aux biens communs de l'information et la propriété intellectuelle. Et puis il y a un docu-livre aussi sur science et démocratie, un forum inédit dans le cadre du forum social science et démocratie que l'association a lancé il y a 5-6 ans maintenant. Et je vous invite aussi à aller donc sur le site villebiencommun.org, hein, c'est un site qui vient de sortir à l'image du festival dont je vous ai parlé. Et puis le site aussi, lyon.biencommun.org, qui concerne principalement toutes les initiatives, les 25 initiatives à aujourd'hui recensées sur Lyon et sa région pour donner à voir des formes de production de biens communs, que ce soit encore une fois des jardins partagés ou des communautés du livre. Tous les exemples que je vous ai cités sont globalement représentés dans les initiatives qui sont proposées sur ce site. Et puis il y a cette matinée de samedi. Là, je vous ai fait un rapide brassage de ce que peut être les biens communs. Mais samedi, à l'occasion d'une matinée d'échange, vous aurez l'occasion d'approfondir un peu plus cette notion si vous en avez envie, notamment d'approfondir la question de la ressource et des biens communs, d'approfondir la question de la propriété intellectuelle et nouvelles conceptions de la propriété et des biens communs, les questions aussi des formes de gouvernance et à travers une approche en économie politique. Et puis il y aura des tas d'exemples qui sont présentés, notamment dans le domaine du numérique. Il y aura aussi un exemple sur le fleuve. Il y aura un élu aussi du Grand Lyon qui viendra poser la question de la ville en bien commun. Voilà, n'hésitez pas si vous avez envie pour approfondir cette question avec moi. Merci.
Oui, si vous avez des premières réactions, on peut effectivement, avant de repartir sur la deuxième étape, la deuxième partie, avoir déjà un premier échange par rapport à l'exposé que Claire vient de proposer. Donc, si vous avez des questions tout de suite sur lesquelles vous souhaiteriez. Oui.
Je n'ai pas très bien compris la différence entre bien commun et bien public.
Bien commun et
bien public.
Les caractéristiques sont sensiblement les mêmes quand j'ai déroulé bien non rivaux et bien non excluables. Les caractéristiques sont sont sensiblement les mêmes, à cette différence que les biens communs ne sont communs que s'ils sont gérés par une communauté qui en définit les usages et les droits d'accès, de, les droits d'accès à la ressource. Voilà. La principale différence, elle est là. Dans le public, on a tendance à imaginer que derrière bien public, c'est la puissance publique qui gère. C'est pas nécessairement le cas. Par exemple, il y a quelque temps, les organisations internationales qui ont défini des biens publics mondiaux. Mais en réalité, ça n'était pas des communs dans la notion où c'était pas la communauté mondiale qui était amenée à gérer la ressource.
Permettre d'ajouter la différence, une des différences fondamentales, c'est qu'on n'a pas forcément cette vision que le bien public est différent du bien commun sur cette notion de gestion communautaire, puisque on a souvent la représentation d'un modèle de droit public qui s'inscrit dans une représentation démocratique et où d'une certaine manière on participerait au travers de nos représentants à la définition de ce qui est public. Or, le bien public n'est pas toujours dans des sociétés démocratiques. On peut avoir du bien public dans des sociétés non démocratiques. Et que, par ailleurs, la représentation par d'autres ne fait pas que le commun gère cette ressource. Est-ce que je suis clair quand je dis ça?
Pour moi, c'est clair, mais ça pose quand même des questions vis-à-vis de Wikipédia, par exemple, si vous allez prendre des exemples qui sont qui est déjà tributaire de dons, tous les ans ils font appel à dons, qui fonctionnent un peu comme. Enfin, les donateurs sont au final un peu les actionnaires, si je m'exprime comme ça, et ils ont aussi le rôle de censeur. Ils ont un regard sur le contenu de Wikipédia.
Non. Moi, je suis donateur, je n'ai aucun droit. Si ce n'est le même droit que n'importe quelle autre personne qui serait, elle aussi, contributrice à Wikipédia, qui serait membre de Wikipédia et qui pourrait refuser une modification à un moment ou à un autre. Alors après, dans Wikipédia et avec l'histoire de Wikipédia, il y a des règlements sur le fonctionnement et la bureaucratisation, entre guillemets, des processus de publication qui ont évolué, mais il n'en reste pas moins que le socle fondamental, c'est que sur Wikipédia, la validation d'un article n'a rien à voir avec ses donateurs. Ses donateurs n'ont strictement aucun droit de regard sur le contenu de ce qui est dedans.
S'il y avait, je n'ai pas dit qu'il y avait de lien entre les donateurs et le contrôle des données. Je voulais juste savoir, il n'y a aucun contrôle des données de la bureaucratie de Wikipédia. Aucune censure.
Alors, je crois qu'il y a un atelier Wikipédia à un moment donné, mais si on reste sur l'aspect Wikipédia, sur la dimension Wikipédia, il y a une forme de bureaucratisation, entre guillemets, de bureaucratie de Wikipédia qui s'est mise en place. Et j'emploie le terme volontairement parce que c'est Wikipédia, dans ses structures mêmes, qui a mis en place des structures de validation qui sont toujours des validations a posteriori sur Wikipédia. C'est-à-dire qu'on produit d'abord un changement, le changement est détecté et indiqué à des gens qui sont veilleurs, entre guillemets, sur la bonne tenue de l'encyclopédie. Et quand on dit qu'ils sont veilleurs, c'est qu'avant tout, ils veillent au vandalisme et à ce que les articles soient bien formés. Quand on dit que les articles soient bien formés, c'est qu'il n'y a pas des problèmes techniques qui empêchent la lecture, ou etc., de repérer des choses. Donc, ils ont des systèmes d'alerte comme n'importe qui peut avoir des systèmes d'alerte. C'est-à-dire que vous et moi, s'il y a un article auquel on est particulièrement attaché dans son contenu dans Wikipédia, on peut s'abonner à cet article et avoir une alerte systématique dès qu'il y a la moindre modification qui se fait dessus. À côté de ça, sur Wikipédia, il y a un historique de tous les changements, à la virgule près, qui ont été faits depuis la création de l'article. Donc on a ce suivi-là et on a le traçage de par qui ça a été fait. Alors, avec une ambiguïté, quand je dis de par qui, c'est parce que ça a pu être fait par des anonymes. Oui.
Quand vous parlez de vandalisme, vous sous-entendez du plagiat ?
Non, je ne sous-entends pas le plagiat. Quand je parle de vandalisme, c'est des gens qui détournent l'utilisation de la page à d'autres fins.
Ah, dans l'autre sens ?
Voilà. Donc, c'est des gens.
Juste par rapport à ça, pour rebondir sur la question initiale, et pour aller au-delà de Wikipédia, c'est pas parce que on produit du bien commun, qu'on est forcément au pays des bisounours, hein, entendons-nous. Dans les règles d'accès et les règles d'usage, il peut y avoir des formes de coercition, des formes de régulation qui ne sont pas démocratiques. Simplement, ce qui caractérise le bien commun, c'est vraiment de mettre la ressource et de la gérer normalement en commun. Après, que les, encore une fois, que ces règles soient bonnes ou mauvaises, c'est encore autre chose.
Le bien commun participe au développement du pays.
Non, il y a madame, c'est ça précisément. Le bien commun, c'est pour moi, c'est ce qui nous appartient à tous. Notre histoire, par exemple, c'est un bien commun. Si ta maison, par exemple, avec tout, c'est un bien commun, ça nous appartient. Et ça, de toute façon, on devrait être contrôlé pour tous, pour nous. Alors, les savoirs, vous mettez les savoirs, est essentiellement gratuite. Et pas tout le monde a accès à le savoir. Certains seulement ont accès, et la grande majorité, non. Donc, effectivement, pas seulement les savoirs, sinon ce que vous dénominez les réseaux, et ce que vous disiez encore les vivants, nous ne sommes pas tous. Donc, que certaines classes qui ont un accès à ça. Donc, la notion de bien commun, en réalité, reste dehors. Ce n'est pas un bien commun, il est un bien qui appartient à certains, mais qui n'est pas commun. Normalement, dans une société, ce bien commun, c'est de devenir appelé patrimoine, ce qui nous appartient et qui nous devient à cimenter, c'est notre identité, notre façon d'être. C'est ça que je comprends, un bien commun, c'est un bien social. Lors, vous arrivez et vous parlez des biens, comme la richesse, les réseaux et le vivant qui appartient qui à certains et pas commun. Donc, c'est commun que nous. C'est ça qui, pour moi, est une contradiction. Vous partez du bien commun pour arriver à un bien de tous les gens.
Non, je crois que, précisément, la démonstration a consisté à montrer que les biens communs sont en quelque sorte des antidotes à la privatisation des savoirs et à la mise en place de règles de propriété industrielle ou intellectuelle sur un certain nombre de ressources qui sont produites dans les ressources cognitives, donc du savoir, qui sont produites par des acteurs issus de la recherche, issus des réseaux, issus de différents mondes. Et donc, bien évidemment que les biens communs relèvent de biens sociaux. Et je voudrais juste préciser par rapport à votre intervention, il ne faut pas confondre le bien commun des biens communs. Le bien commun, c'est l'intérêt général, grosso modo, et ça recouvre tout un tas de notions, la justice, le social, l'identité. On peut tout mettre dans le bien commun. Par contre, les biens communs, il y a une notion qui est quand même assez fondatrice, c'est la notion de la ressource. Dans les biens communs, il y a la ressource, alors que dans le bien commun, il n'y a pas la ressource. Et c'est la raison pour laquelle ça en fait une notion beaucoup plus, beaucoup moins généraliste que le bien commun en général.
Oui. Madame.
Et monsieur, je crois que au fond.
Oui, je disais, vous aviez dit dans votre intervention levier pour penser le développement. Les biens communs, levier pour penser le développement. Est-ce qu'aujourd'hui on peut quantifier la part qu'apportent les biens communs dans le développement de la France, par exemple?
Joker.
Non, ça marche pas parce que ça veut dire que vous choisissez des critères productivistes pour quelque chose qui n'entre pas dans une logique productiviste. Donc ça veut dire que forcément on trahit les concepts qui sont ceux des biens communs pour essayer de répondre à votre question. Ce n'est pas quantifiable avec des outils comparables avec ceux d'une logique productiviste, qu'elle soit capitaliste ou non.
Est-ce
La question n'était pas uniquement sur le développement du PIB.
Là. Oui. Mais là, c'était en termes de chiffrage.
Oui, mais
on était sur l'approche quand même.
Oui, il y a des tas de réflexions en ce moment qui sont en train de formaliser des nouveaux indicateurs de richesse et qui prennent en compte notamment le bien-être, le social, enfin tout un tas de critères. La question, c'est cette formalisation, à quoi elle va servir et dans quel contexte de développement justement.
Pour rebondir sur la question sur le développement de la France, je pense que la question est biaisée, pas nécessairement en termes de productivisme, mais en termes de communauté. C'est-à-dire la France, c'est-à-dire qu'on restreint nécessairement la communauté à la France en termes physiques ou la nationalité française. Et je pense qu'en termes de bien commun, c'est très très réducteur de limiter une nation à un territoire quelconque, notamment pour les biens communs de la connaissance, puisque comme on le sait, Internet est une ressource totalement internationale. Si on prend les biens communs de la connaissance, par exemple, le domaine public en termes de droit d'auteur, enfin le domaine public, les livres que possède la Bibliothèque nationale de France, qui est diffusée sur Internet, on ne peut pas dire que ça ne profite qu'aux Français ou qu'à la France. C'est un bien commun qui appartient à l'humanité. Et c'est en ça, je pense que la question est biaisée, c'est de restreindre territorialement les biens communs, alors que la communauté peut être beaucoup plus large que ça.
Non, mais j'abonde complètement par rapport à ce que vous dites. Quand je disais que la question de la communauté, elle était problématique, puisqu'elle peut s'appuyer à la fois sur un territoire, mais qu'elle peut être complètement déterritorialisée, ça recoupe complètement ce que vous disiez. Du coup, ça pose aussi des questions de régulation, parce que les formes de régulation politique, elles s'appuient aujourd'hui sur des territoires. Penser demain des formes de régulation politique qui ne s'appuient pas sur des territoires physiques, c'est quelque chose qui nous emmène très loin.
Mais du côté de Manuel Castel, s'il y a des travaux sur les communautés, notamment numériques. Mais pas seulement, c'est-à-dire que la notion de communauté, elle, n'est pas rattachée au territoire, elle est rattachée à des pratiques collectives, qui, elles, ne sont pas forcément territorialisées.
Moi, j'ai une question concernant Adobe. Vous en avez parlé tout à l'heure, mais à l'instant T, est-ce que la loi Adobe a été entérinée par un vote au Parlement, s'il ne semble pas le cas ?
Alors, c'est lui, spécialiste du numérique, je laisse répondre.
Ouais, mais c'est vrai que c'est un serpent de mer, il y a des Adobe 1, des Adobe 2, des dates vessies qui s'enchevêtrent les uns avec les autres. Donc, je serai pas précis sur la réponse, mais il est clair qu'effectivement, tout ce qui est autour d'Adobe, d'être VSI, c'est-à-dire tout ce qui est sur les droits d'auteur sur Internet et droits voisins, ça fait partie d'un ensemble de dispositifs qui sont mis en place officiellement pour protéger la création et les artistes, dans les faits qui protègent surtout les grands industriels de la culture. Ça sert d'abord et avant tout à ça. C'est-à-dire que l'idée, c'est effectivement, et là on est parti parfaitement dans cette logique d'enclosure.
Oui.
Elle est d'arriver à dire qu'une connaissance peut générer des contenus économiques à condition effectivement qu'on crée de la rareté. Or, ce qui est particulièrement intéressant sur cette question-là, c'est que le numérique a inventé d'une certaine manière l'abondance en matière de diffusion d'informations.
Gratuite,
elle n'est pas totalement gratuite, mais elle est quand même à des coûts qui sont très faibles, et la possibilité que ces coûts puissent être pris en charge ou partagés qui facilite l'accès aux informations. Mais que derrière ça, effectivement, on crée des verrous numériques pour créer une rareté là où elle n'y est pas.
Ouais, mais moi je trouve que la question d'Adobe, elle est vraiment significative et intéressante. Parce que justement, elle pose la question des frontières entre la frontière nationale, donc les problèmes franco-français, et puis la frontière virtuelle qui est à l'échelle du monde. C'est-à-dire qu'Adobe ne peut pas empêcher les gens, enfin, ne peut pas. Adobe, c'est un projet de loi français, et qui ne peut pas contraindre des pages qui sont hébergées sur des sites à l'étranger à se plier aux décisions de la loi française.
Ce qui se passe plutôt, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas une homogénéité du droit international, mais je pense qu'il faut prendre les choses plutôt à l'envers. C'est-à-dire qu'Hadopi n'est pas une loi française qui pourrait faire tache d'huile ailleurs, mais elle est plutôt le portage de directives internationales, soit de directives européennes, soit de recommandations qui sont faites par l'OMC et des groupes de lobbyistes qui font converger dans l'ensemble des pays qui fonctionnent dans des économies de marché, qui font converger vers des lois qui protègent les marchés existants. Voilà. Donc, on adopte on adapte le droit que les majors internationales, qui, elles, ont une organisation internationale, ont une circulation internationale, ont des règlements internationaux entre elles, eh bien, elles le font délocaliser sur les territoires, au travers de lois comme Hadopi, mais avec différentes formes selon les pays et les histoires des pays, mais convergeant dans le même sens.
On va prendre une dernière question, puis on va passer à la seconde partie.
Ce qui est étonnant, c'est l'acteur linguistique. Vous parlez de gouvernance, et vous venez de faire la description par ailleurs, que la gouvernance, c'est-à-dire la prise de décision au niveau mondial par des gens qui ne sont pas du tout des gouvernants, est problématique. Parce que justement, la décision est devant à la fois de l'OMI, à la fois des organisations qui ont du bon sur vous, comme le FMI, l'Union Européenne et tous ces traités qui ont pour objectif, en réalité, de légiférer là où il y a d'autres lois qui s'opposent en réalité à des intérêts privés. Et donc, du coup, ce qui est quand même assez intéressant, c'est qu'il y a des tentatives de lutter contre la privatisation en utilisant le même langage, le même type, on va dire, d'organisation. Comme la gouvernance, c'est quoi? Qui va décider? C'est ça, les parties prenantes. Les parties prenantes dans les projets coopératifs, ça peut être justement des grands professeurs, ou ça peut être monsieur tout le monde. Et à un moment donné, la prise de décision va se faire, comme d'habitude, par des clubs. C'est-à-dire qu'on fait tout ça pour revenir à la même chose, c'est toujours les mêmes qui décident, c'est toujours la même chose. Donc là, ça fait un gros problème, puisque effectivement, le bien commun, ce qui disait madame tout à l'heure, puisque là où je questionne, c'est quelle est la délimitation du commun. Et cette délimitation du commun, c'est les manques d'imagination que nous avons tous en fait avancé le monde d'une manière différente, parce qu'on retombe toujours sur la même manière de penser, c'est celle du système. C'est tout simplement, je vois un exemple pour voir pourquoi c'est difficile parfois à penser en dehors de ça, la ville, parce que vous parlez de la ville de Lyon, elle a des représentants. Et ça c'est très personnel, qui n'est représentant d'une personne, parce que justement vous parlez de la délégation, c'est pseudo-représentants privatisent contre la vie de tout le monde. Et donc voilà pourquoi, comment, etc., les rues, tout ce qui est quand même de propre de toutes les personnes qui habitent dans cette planète. À un moment donné, il y a confrontation entre les petites communes et les grandes communes, ce qui est vraiment un usage plus ou moins privé, un usage commun. Parce qu'on va bientôt arriver avec l'eau, avec l'électricité, à des problèmes de ce type. Donc si on pense qu'au niveau collaboratif, c'est la même chose que les dominants,
je vous invite à aller sur le site lyonbiencommun.org pour voir toutes ces initiatives qui sont présentées.
Je connais.
Vous arrêtez sur. Ça suppose d'aller sur place et d'écouter les gens ou de voir comment ils mettent en pratique leurs actions et de voir comment ils définissent eux-mêmes des règles d'usage, des droits d'accès à des jardins. Et c'est là, concrètement, en écoutant la manière dont les gens s'organisent eux-mêmes, et pas comment on leur dit de s'organiser, mais la manière dont ils s'organisent eux-mêmes, ils s'autogèrent, c'est dans cette valeur sociale-là que réside aussi, comme c'est bien commun. Et on n'est pas dans un dispositif de pouvoir dit pyramidal où les clercs prendraient le pouvoir. On n'est pas dans ce contexte-là. On est simplement dans des pratiques qui peuvent paraître marginales, mais qui existent autour de jardins, de gens qui ont envie de partager un jardin. Des gens qui ont envie de partager un jardin. Pas forcément des gens lettrés. Moi, j'ai un jardin dans mon immeuble collectif. Tout bon, tous les gens ne sont pas livrés, et pourtant, c'est du jardin. Donc, il n'y a pas. Les décisions, elles se mettent en place collectivement, elles sont diffusées et elles donnent lieu à des règles d'usage et des règles d'accès au jardin.
Pour reprendre un petit peu cette idée, justement dans l'organisation de Lyon en bien commun, on n'a pas eu toute la disponibilité qu'on pouvait avoir du point de vue notamment de la journée qu'on voulait faire sur le samedi, sur l'ensemble de la journée. Mais typiquement, on avait un atelier qui était envisagé pour l'après-midi qui s'appelait « C'est les biens communs sont-ils solubles dans la démocratie représentative ?» Qui dit en gros que ce qui est important, c'est que la notion de bien commun, justement, effectivement, elle s'inscrit dans une pratique. C'est pas un discours, c'est une pratique.
Et le représentant.
Et que il n'y a pas de représentant.
Démocratie représentative, pour moi, c'est un oxymore, mais bon.
Voilà, c'est la démocratie. Qui sait que c'est la démocratie? Démocratie, ça veut dire que c'est la résolution de la majorité. C'est ça la démocratie?
Pas forcément.
Ça ne serait pas une position de quelques-uns sur la grande majorité.
D'abord, c'est pas forcément. C'est une forme de démocratie parmi d'autres. Mais il y a différentes formes de démocratie. Il y en a qui s'appuient sur la majorité, il y en a qui ne s'appuient pas sur la majorité. Mais la représentation alternative de chaque pays, la démocratie athénienne ne s'appuie pas sur la majorité, elle s'appuie sur le fait que chacun puisse un jour ou l'autre, à égalité de traitement, avoir la possibilité de prendre des décisions au sein de sa société. Et il n'est pas élu, il est tiré au sort dans ce sens-là. Et on est dans un système démocratique.
Mais vous serez d'accord avec moi que nous, nous sommes la majorité capable de prendre des décisions même dans notre maison et pire encore à nom de notre ville ou de notre nation.
J'entrerai pas sur ce discours parce qu'il y a des moments où je pense que la majorité est intéressante et il y a des moments où les minorités sont bien plus éclairées que les majorités. Mais il faut savoir faire le choix entre les moments où les majorités sont éclairées ou elles ne le sont pas.
Et la preuve, c'est que, par exemple, la DOGM que vous avez énoncée, à qui ça sert? Ça n'occupe pas la grande population. Et l'Afrique et l'Asie ou l'Amérique latine sont obligées d'acheter la semence, par exemple. Et la partie qui a une seule société qui est Monsanto. Et qui c'est qui gère tout ce cultivo-là. Donc, vous voyez des choses comme vous donnez l'exemple des choses qui sont complètement injustes et qui appartiennent à quelques-uns et non pas à l'humanité. Quand les biens communs, c'est général.
C'est en ce sens qu'effectivement, l'intervention de Claire nous disait que les OGM allaient justement à l'encontre de ces logiques de biens communs en étant sur des logiques de droit privé, d'appropriation privée, plus que de droit. Je dirais d'appropriation privée, et que je reviens sur ce que je disais, que effectivement ce qui relève des biens communs, ça s'inscrit aussi dans des pratiques, et je vous propose qu'on passe justement à essayer de voir si, au niveau de l'université populaire, nos pratiques s'inscrivent dans ce concept de biens communs, et dans un concept de savoir de biens communs. Est-ce qu'on s'y inscrit complètement? Jusqu'où on s'y inscrit? Et est-ce qu'il y a des bonnes raisons de s'y inscrire ou pas s'y inscrire? Pourquoi pas? C'est un petit peu l'idée qu'on va essayer de vous soumettre tout de suite. Avec. Voilà. Donc, l'idée du bien commun, très résumée, je ne reviens pas dedans, mais c'est cette logique qu'il y a des ressources, des communautés qui font des règles et puis ça nous amène à des normes. On a des normes, des règles qui sont travaillées collectivement et qu'on vient sur du bien commun. Donc, que d'une certaine manière, on a ce qu'on a vu précédemment, et je ne vais pas revenir en détail sur ces concepts de bien commun, mais du coup, au niveau de l'université populaire, la question c'est de se dire, on a probablement des ressources partagées, ces savoirs qui sont échangés pendant les conférences et qui sont accessibles à tous. Quand on dit accessibles à tous, c'est-à-dire que à partir du moment où techniquement les personnes ont accès aux outils permettant de se mettre en relation avec les sources que nous on produit, eh bien il n'y a pas de filtrage sur l'accès à ces ressources-là. elles sont disponibles sans vérification aucune. Du point de vue de la gouvernance, on est sur une gouvernance qui est une gouvernance communautaire, avec une formalisation qui est celle d'une association, mais qui garde une certaine... Alors, je vais pas trop m'avancer sur des choses de l'université populaire, parce que moi je suis, on va dire, un nouveau passager de l'université populaire. Un nouveau passager, donc c'est quelqu'un qui voyage avec, un passager, mais c'est aussi peut-être quelqu'un qui n'est pas forcément dans la sagesse. Ouais, ça peut s'écrire en deux mots, hein. Mais donc, ça veut dire qu'il y a des éléments sur lesquels aussi bien Françoise que d'autres membres de l'université qui sont présents dans la salle, j'en fais plusieurs, Philippe, Lilian, tout à l'heure, reviendront éventuellement sur les choses que j'aurais avancées un petit peu à côté. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est du point de vue, je dirais, du partage des pratiques. La façon dont on partage. Et donc, peut-être que dans un premier temps, je vais refiler un petit peu la parole à Françoise pour qu'elle nous rappelle un petit peu cette idée de l'université populaire, le retour de l'université populaire, l'UNIPOP 2.
Ça ne s'appelait pas l'UNIPOP à l'époque, ça s'appelait l'UPL d'ailleurs, et puis comme on voyait partout dans Lyon, Lyon, on a changé de nom parce que c'était pas très agréable de se confondre avec Cécile. Oui, alors l'Université Populaire est née en 2005, enfin elle a été conçue un petit peu avant, autour de 2004, d'une idée en fait assez individuelle, justement on rejoint bien ce que tu disais, c'est une envie de s'emparer de certains savoirs qui n'étaient pas forcément accessibles tout le temps et à tous. Et suite à effectivement la rencontre sur la télévision de Michel Onfray qui parlait de l'Université Populaire de Caen qu'il avait monté en 2002, si je ne me trompe. Et donc quand nous avons vu ce qu'il avait monté, on s'est dit pourquoi ne pas monter l'Université Populaire à Lyon. Et voilà, j'ai contacté un certain Philippe Corcuff qui se planque derrière le pilier là-bas, que je ne connaissais pas et à qui j'ai demandé effectivement de nous aider à monter ce projet qui était relativement simple à monter. Et vous pouvez tous monter des universités populaires, c'est très, très facile en fait. Techniquement, c'est très facile. Donc il suffit de rencontrer quelqu'un voilà, qui veut bien déjà vous lire et puis qui vous dit « oui, j'ai pas beaucoup de temps mais ça m'intéresse ». De créer un lieu où on pourrait faire un partage des savoirs, donc disait Vincent et Claire, c'est-à-dire de s'emparer de ces savoirs qui ne sont pas interdits bien sûr à l'université traditionnelle, qui sont accessibles dans pas mal de lieux, mais qui rencontrent un certain nombre de barrages. Et bon, on n'a pas franchi tous les barrages, c'est clair, il y a plein de barrages qu'on n'a pas franchis, mais on en a quand même abattu quelques-uns, et à commencer par la gratuité. C'est quand même un cadeau que les intervenants d'université populaire nous font puisqu'ils viennent tous bénévolement entre 19h et 21h partager ce qu'ils savent avec nous. Voilà, ça c'est déjà un beau cadeau. Donc quand Philippe m'a dit « oui, ça m'intéresse, j'ai pas beaucoup de temps, mais je connais des gens que ça intéresse », j'ai écrit à tous ces braves gens et qui m'ont répondu, Sophie Béroux en particulier, très tôt, Philippe, etc. Et on a commencé, il y avait 5 intervenants qui faisaient chacun une douzaine de cours. Et puis, il y a eu un phénomène extraordinaire, c'est que l'Université Populaire a attiré des auditeurs, mais elle a attiré des intervenants. Et donc, très vite, plein d'intervenants sont arrivés en disant « mais c'est super comme expérience, on a envie de partager ce qu'on sait avec un public qui vient motivé parce qu'il vient à 19h ». Qu'il vient après son boulot, ou il vient en fin de journée, il vient donc, il a vraiment envie de venir écouter quelque chose, il est curieux, il a des questions à poser, il nous critique, il nous arrête au milieu d'une phrase, donc il y a quelque chose qui se passe, qui ne se passe pas ailleurs, et donc les intervenants trouvaient ça globalement assez génial, et Philippe était très très occupé, a quand même continué d'investir son temps dans l'université populaire, il a même trouvé le moyen d'en monter une à Nîmes. Donc il faut croire que l'expérience lui plaisait. Et puis voilà, on a commencé avec 5 profs et maintenant on a à peu près une trentaine d'intervenants qui travaillent avec nous, de matières différentes, de toutes sortes de matières. Alors je ne vais pas vous refaire l'historique parce que ça sera trop long, mais pour retrouver l'idée du bien commun, c'est effectivement pour nous le fait de créer un espace gratuit, et dans notre société c'est quand même une bataille significative. On n'est pas tous au top, on ne fait pas toujours des choses magnifiques, mais une parenthèse de gratuité dans une société où tout est payant, je pense que c'est quelque chose d'important, voilà, et on y tient beaucoup. Il n'y a pas d'inscription, il n'y a pas d'adhésion, on me demande ça tous les jours, depuis 10 ans, on me pose la même question. Vous pouvez partir en plein milieu d'un cours, on vous demande rien, on vous demande ni pourquoi vous partez, ni pourquoi vous revenez, voilà. Donc on est content quand vous êtes là, mais vous êtes libre. Donc ça aussi, espace de gratuité, espace de liberté absolue. Vous avez le droit de parler, on vous écoute, bon, à condition que le respect soit de part et d'autre, mais on vous laisse parler, les profs se laissent interrompre. Il n'y a pas tellement d'endroits où c'est possible. Hein? Donc voilà, vous prenez des notes, vous n'en prenez pas, vous écoutez discrètement, vous jouez avec votre portable, personne ne viendra vous faire de remarques, vous êtes totalement libre. Donc c'est ces deux valeurs qu'on défend très très fort. En plus, on a mis les cours sur Internet, et ça vous permet de les écouter ou de les réécouter chez vous. Bon, vous pouvez les podcaster, vous pouvez en faire des confettis. C'est à vous. Voilà. Alors, ce qui manque un petit peu à l'université populaire, et c'est ce qui est difficile à faire passer, je pense que c'est quelque chose que Vincent va essayer de nous apprendre, parce qu'il essaye de nous apprendre des choses aussi, et à moi en particulier, parce que je ne suis pas très douée dans les logiciels libres. Donc moi je patauge sur les classiques, et j'espère qu'il va me donner les outils. Mais ce qui serait bien aussi, c'est que les auditeurs s'emparent de cet outil qu'on vous offre et qu'ils ne soient pas toujours dans le consumérisme à dire « Ah ouais, pourquoi il n'y a pas de cours ceci, pourquoi lui dit ça, et pourquoi c'est pas mieux, ou pourquoi ça se passe pas là, et pourquoi il ne fait pas plus chaud ou plus froid ?» Ça serait bien aussi que vous serviez de relais et que vous aussi vous fassiez circuler ce savoir et que vous partagez avec tous les gens que vous rencontrez, pas forcément pour nous faire de la pub, mais aussi pour transmettre ce qui se passe ici. Je pense que c'est une étape qu'il faudrait franchir. Et peut-être on voulait créer un forum, ce serait peut-être bien un outil de débat où on pourrait aussi échanger sur le net. J'ai eu une remarque d'une auditrice qui se plaignait que le net, c'est pas accessible à tout le monde et que c'est affreux, qu'elle ne pouvait pas s'inscrire. Et en fait, elle m'écrivait sur son iPad. C'était assez drôle pour me dire qu'elle était contre l'informatique. Alors je lui ai suggéré d'inscrire les amis qu'elle avait qui n'avaient pas Internet. Je lui ai dit, vous n'avez qu'à passer par votre iPad et vous les inscrirez aussi bien que n'importe qui d'autre. Voilà, c'est pas nous qui faisons tout. C'est à vous aussi de jouer.
Donc, l'idée c'est qu'effectivement, comme vient de le dire Françoise, l'université populaire, c'est un accès libre et gratuit, avec des captations et des rediffusions, une archive sur le web, des contenus qui sont sur le web. On n'a pas de connexion, puis en plus de ça, on a quand même déjà bien entamé notre crédit temps. Donc on ne va pas faire une visite complète du site, mais juste tout à l'heure, je m'arrêterai une seconde sur l'écran pour vous montrer peut-être 2-3 endroits qui méritent peut-être un petit peu le détour, mais c'est l'idée qu'il y a une archive qui est sur le web. Est-ce que ça nous amène à être dans ce qu'on appellerait les savoirs en bien commun? C'est des petites questions auxquelles j'ai tenté de répondre. Et sur la gratuité, ben, d'une certaine manière, il y a un accès qui est désengagé. Donc c'est vachement bien. Mais d'un autre côté, effectivement, c'est peut-être un frein à une pratique communautaire, à une gestion communautaire. Quand je suis inscrit quelque part, quand je suis membre de quelque chose, peut-être qu'à un certain moment, il y a une forme d'engagement qui y participe. Mais là encore, quand j'amène ces éléments-là de questionnement, ça ne veut pas dire qu'il faut y répondre pour aller dans ce sens des biens communs, forcément, ou cette interprétation-là. C'est une question que pose le fait de la gratuité. La gratuité est parfois quelque chose qui va dans le sens du désengagement. Je dis ça notamment parce que je viens un petit peu de la culture du logiciel libre, où on passe notre temps dans le logiciel libre à dire un logiciel libre n'est pas gratuit. C'est pas parce qu'on ne le paye pas qu'il n'est pas gratuit. Et c'est pas parce qu'on ne le paye pas qu'il ne vaut rien. Au contraire, les logiciels libres sont bien plus que ça. Donc, on est dans cette logique-là. Alors, captation et rediffusion. Aujourd'hui, on est dans une logique qui est de dire, bah, effectivement, ce qui est sur le site de l'université populaire est librement accessible. Quand je pose la question du droit d'usage et de reproduction, là aussi c'est avec ma casquette entre guillemets de libriste qui se pose des questions un petit peu tortueuses sur les licences et tout ce qui va autour. Parce que cette question, j'aime la faire poser à chacun. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, on est dans un univers de droit sur la diffusion des contenus, sur la diffusion de ce qu'on produit, et qu'on est tenu plus ou moins, aujourd'hui, à un moment donné, d'attacher des droits à ce qu'on produit. Parce que si ce n'est pas nous qui le faisons, d'autres le feront pour nous. Aujourd'hui, il y a un ensemble de lois de règlements qui sont proposés par la SACEM ou d'autres personnes sur ce qu'on appelle des œuvres orphelines. On ne sait pas à qui c'est. Et bien, si on ne sait pas à qui c'est, on les refile à certaines sociétés de gestion de droits qui monnayeront la façon dont on peut s'en servir. Donc la SACEM a bien géré son monopole pendant un certain temps sur les droits d'auteur. Elle escompte bien continuer ce genre de logique encore un certain temps. Donc, la question des droits, c'est une question, et la question des licences est une question qui est à se poser quotidiennement à chaque fois qu'aujourd'hui, on produit de l'information, y compris sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, quand chacun d'entre nous va déposer une photo sur un réseau social qui est du blanc avec un petit peu de bleu de temps en temps, Eh bien, cette photo-là ne vous appartient plus. Elle appartient à ce réseau social. Et si vous avez mis la photo de votre neveu, qu'il est super trognon et trop chou comme ça avec la moue qu'il fait, et que Kadom la trouve vachement jolie et qu'elle illustrerait très bien les photos de son prochain, la photo du bébé sur son prochain paquet de couches, elle négociera pas avec vous, elle négociera avec la société qui détient les serveurs, et c'est elle qui décidera de ce qu'on fait ou pas, et de combien ça se monnaie ou pas. Donc on a besoin aujourd'hui de se poser ces questions là même si en contrepartie, et là aussi j'apporte pas de réponse formelle hein, quand je dis ça, en contrepartie aujourd'hui quand moi je prépare un diaporama, ça me prend des heures, non pas de mettre ce qui est dans le diaporama, il y a trois fois rien, vous avez vu, il y a quelques lignes et deux trois photos. Sauf que je me casse la tête quand je mets une photo à dire « Merde, c'est quoi les droits qui sont là-dessus » Alors, j'essaie de ne pas me casser la tête. Je choisis des trucs qui sont sous Creative Commons, mais je passe du temps sur Internet à vérifier à chaque fois que je veux mettre une illustration dans un de mes documents, est-ce que je peux utiliser cette illustration dans un de mes documents. Parce que il y a quelques temps de ça, j'avais mis 15 secondes, même pas, à peu près 15 secondes d'une vidéo d'un dessin animé nord-américain que j'avais gardé dans sa langue pour présenter juste cet extrait-là à mes étudiants en cours et qu'ils puissent y avoir accès quand ils n'étaient pas en cours. Donc la vidéo était sur YouTube, j'avais coupé 15 secondes de South Park. J'ai été censuré parce que j'avais pas les droits sur South Park. Bon, tant pis, c'est pas grave. Mais voilà, c'est un truc.
Pardon. Vous n'êtes pas le seul à être censuré sur YouTube.
Oui, bon, en même temps, c'est pas bien grave, hein. Je veux dire, il y aurait pire. Mais ça veut dire qu'on voit bien aussi à ce niveau-là que là où on met nos contenus, ça a son importance, ce qui m'amène à cette notion sur les archives, sur la pérennité et les formats. Et c'est vrai que on voit, nous, l'Université Populaire, on travaille là-dessus systématiquement d'année en année pour améliorer ces outils de mise à disposition, parce que dans un premier temps, eh ben, il y a les archives, c'est archivé sur des box, enfin, sur des sites particuliers. Donc aujourd'hui, on gagne en autonomie sur la façon dont on va archiver nos contenus, mais aujourd'hui, on a souvent la facilité, pas simplement nous, hein, je parle de nous utilisateurs de réseaux numériques, la facilité d'utiliser ce qu'on appelle le cloud computing, les services d'informatique déportés, les machins qui vous permettent de dropper vos contenus quelque part, j'ai pas dit le nom de la marque jusqu'au bout, mais qui permettent de dropper des contenus comme ça sur Internet chez des gens que vous connaissez pas et qui ont vos contenus et qui en font ce qu'ils veulent. Ça leur appartient en vérité, puisque le serveur, si le serveur il tombe en panne et que vous avez dessus tout votre savoir, ben vous pouvez leur dire ce que vous voulez, ils vous diront, ben tant pis, vous n'avez pas payé. En règle générale, c'est ce qui va se passer, puisqu'en règle générale, vous aurez rarement lu les 8 pages de contrat où il y a écrit coché « I'm agree » en bas. Alors « I'm agree », ça veut dire « je suis d'accord ». Je le dis parce que des fois, on avait juste vu que c'était écrit en rouge qu'on n'avait pas coché la case, donc on coche. Mais on est dans ces logiques où aujourd'hui, eh bien, on est non pas manipulé par des gens qui arrivent à nous faire prendre des vessies pour des lanternes, mais on est manipulé par un système, un dispositif qui, en réalité, nous supprime le droit de choisir. Qui nous laisse supposer qu'on ne peut pas faire autrement. Donc voilà un petit peu, et sur cette idée de format, ben là aussi, c'est l'idée qu'il y a des formats qui font qu'aujourd'hui, eh bien, on est accessible par certaines personnes, mais pas forcément par la majorité, parce qu'on n'a pas adopté les standards qui étaient par exemple des standards commerciaux. Mais adopter des standards commerciaux, c'est parfois choisir les fameuses menottes numériques qu'on a pu évoquer tout à l'heure et qui sont proposées par Adopi, pour contrôler et suivre la gestion des droits, soi-disant pour protéger les auteurs, mais surtout pour savoir où sont les contenus pour pouvoir les monétiser d'une manière ou d'une autre. Le site, rapidement, pour resituer et remontrer deux, trois choses pendant qu'on est là tous ensemble, en haut, les lieux des horaires, les lieux des oreilles, les enseignements, bon. Vous allez avoir tous les enregistrements des conférences qui seront disponibles à cet endroit-là. Au fur et à mesure de l'année, ils vont arriver. Il faut laisser le temps à Françoise de mouliner le truc et de le déposer, mais généralement, vous les avez dans les 24 à 48 heures à tout casser. Hein. Les archives qui vous amènent sur les années précédentes et où vous retrouvez toutes les conférences qui ont été enregistrées au cours des années précédentes depuis 2007, je crois.
Oui, c'était trop mauvais. Ouais.
Voilà, et puis les principes, donc c'est la page sur laquelle vous êtes ici en fait, et puis quelques liens, les ateliers de l'université populaire, donc ça c'est le seul truc où il faut s'inscrire parce qu'il n'y a pas forcément de la place pour tout le monde, parce que c'est en nombre restreint lié ben, effectivement au dispositif atelier, et puis vous avez aussi ici d'autres informations et sur cette notion de prolonger le débat. Alors il y a un truc que vous pouvez utiliser d'ores et déjà, puisque on est en train de se poser la question de mettre en place effectivement un forum. La difficulté d'un forum, c'est qu'un forum, c'est intéressant si les gens écrivent dessus, régulièrement et souvent. Si c'est pas le cas, et ben voilà, ça reste un endroit où on dit qu'il y a un forum. Par contre, il y a un truc que vous pouvez d'ores et déjà faire malgré tout avant qu'on mette en place le forum. C'est que sur ce site, pour chaque conférence qui va donc avoir sa captation audio qui sera associée, et le cas échéant, quand on les a récupérés, les diaporamas, vous aurez la possibilité, sur la page de la conférence, d'avoir une zone sur laquelle vous pouvez mettre des commentaires. Vous pouvez reposer des questions, continuer le débat qu'il y a autour de la conférence qui vient d'avoir lieu, de sorte à ce que, ben, effectivement, on puisse avoir une réaction et un prolongement qui se fasse. Donc voilà un petit peu pour cette présentation rapide. Avec l'idée que, malgré tout, on va quand même du côté des nouvelles pratiques. Alors sur cette idée, ben, comme disait Françoise tout à l'heure, on est héritier d'une tradition universitaire du cours magistral, mais ce cours magistral, il est plus interactif, car, je dirais dégagé, même si éventuellement on fera quand même un examen à la fin de l'année. On ne vous avait pas dit. Ouais, mais ça, j'ai aucun problème. Donc, effectivement, plus interactif, parce que probablement dégagé et engagé de part et d'autre, aussi bien de la part des intervenants que des personnes qui viennent assister. Et c'est vrai que je pense que beaucoup d'intervenants comme moi et qui ont aussi des enseignements à l'université, eh bien, se rendent compte qu'on est dans un contexte qui est souvent beaucoup plus interactif du point de vue du travail sur ce qu'on fait ensemble qu'éventuellement avec des étudiants qui ne sont pas toujours dans des dispositifs auxquels ils ont envie de participer d'une manière ou d'une autre, et ils sont dans une logique de poursuivre, pour certains, une formation initiale qui est un héritage d'une culture de l'enseignement en France qui facilite pas forcément l'interaction entre des étudiants et des enseignants, notamment lorsqu'il y a une différence générationnelle et que il y a une espèce de logique franco-française qui fait qu'on n'a pas forcément toute l'interactivité qu'on pourrait souhaiter dans des enseignements. L'ouverture, c'est l'idée d'atelier, mais que pourquoi pas d'autres formes de dispositifs à renouveler, à revisiter et à inventer. Ça, c'est un petit peu cette incitation que formulait tout à l'heure Françoise. Des questions sont souvent posées, on nous a relancé à différents moments sur le fait de mettre l'université populaire et de faire les choses en ligne, et puis de dire que pourquoi l'université populaire, quand vous faites une conférence, pourquoi celle-ci ne serait pas filmée et restituée en direct directement pour que des gens puissent y assister depuis chez eux. C'est une question qui peut se discuter et se débattre. Moi, je préfère que vous soyez là personnellement. Plutôt qu'être face à un espèce d'œil tout noir et d'imaginer que vous êtes vous chacun derrière un petit écran, parce qu'en plus de ça, maintenant on n'est plus dans des écrans qui sont de plus en plus confortables, mais j'imagine mal qu'on puisse se suivre avec la distance convenable et puis en même temps l'immersion sociale qui participe aux appropriations de savoir sur un petit appareil qui a un écran de quelques centimètres de diamètre. Un petit peu de mal avec ça. J'ai tendance à penser que sur une tablette, le rapport au contenu est un rapport en surface et donc d'une certaine manière peut-être un petit peu superficiel.
Ça peut être intéressant d'avoir. C'est très bien pour avoir des personnes présentes ici, mais pour des personnes qui seraient plus éloignées, ça pourrait être intéressant pour eux de poursuivre la conférence en direct et éventuellement de poser des questions dessus.
Oui, ça pourrait.
Ça demande une installation et un équipement pas possible. Je rappelle quand même qu'on est soutenu depuis le début par la ville de Lyon. Ça supposerait qu'on demande un soutien extraordinaire, parce qu'il faut une caméra. Regarder quelqu'un faire un cours en plan fixe, c'est moyennement excitant. Enfin, moi, je trouve ça mortel, mais à moins qu'il fasse des cabrioles sur la tome, mais c'est assez rare. Et donc c'est en général la difficulté. Donc c'est vrai que l'audio, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Alors l'intervention en direct, oui, ça pourrait être très bien, je suis d'accord avec vous, mais ça demande un tout autre type d'équipement. Même Michel Onfray qui fait enregistrer ses conférences sur France Culture, donc ce qui donne quand même une autre qualité d'enregistrement, ne fait pas non plus d'interactivité direct dans ses cours. Je trouve que c'est vraiment quelque chose d'assez compliqué. Je suis pas sûre que ça rende éminemment service. On peut pas non plus répondre à toutes les demandes. On peut pas faire plaisir à la planète entière. On peut pas en faire beaucoup plus que nous en faisons. On peut améliorer des tas de choses, mais je crois que voilà, je trouve que c'est bien aussi qu'on se rend compte. Enfin, il y a quand même un contexte qui est.
Ceci étant, on n'a pas empêché les personnes qui ont fait ces propositions de les pousser un petit peu plus loin. Mais ceci étant, c'est vrai que pour revenir sur ce côté de mise en image, on est aussi dans une culture de l'image où on a appris à regarder des écrans, à lire des écrans, à voir des écrans au quotidien, qui font que ce qu'on voit généralement et l'attente qu'on va avoir dans la réalisation d'une image, eh bien, elle nécessite un travail dont on n'a pas la représentation. Ce n'est pas juste une captation en direct. C'est que tout ce qu'on regarde, tout ce qu'on voit et qui, à un moment donné, forge notre apprentissage de la lecture de l'image, eh bien, nécessite un travail de post-production qui est un coût énorme et qu'on ne peut pas se permettre, ni en temps, ni en moyens financiers. Et que si c'est pour produire une image qui, par rapport aux attentes des gens, à l'esthétique de ce qu'ils recherchent dans une image, à la qualité de réception qu'ils vont attendre, est un objet décevant, eh bien on va les ennuyer. Je dirais que pour avoir fait du podcast pendant un certain nombre d'années, je vois que les gens, ils s'ennuient. Pourtant, j'essaye de faire le show de temps en temps, mais non, ils s'ennuient. n'y a rien à faire. Parce que quand on est sur un écran qui est en plan fixe, eh bien, on n'est pas dans une situation de cours. Là, dans la situation où vous êtes, si à un moment donné, je commence à être ennuyeux, vous pouvez jeter un coup d'œil sur mes voisines qui sont charmantes. Vous pouvez jeter un coup d'œil sur votre voisin qui est en train de consulter son calepin, que je vois faire. Mais vous allez pouvoir avoir comme ça des portées de votre regard qui vont ailleurs, qui vous permettent cognitivement de vous remobiliser. Une image à l'écran, il faut qu'elle compense cette perte d'autonomie que vous avez de remobilisation. Et ça, c'est du travail de montage. C'est du travail qui aujourd'hui n'est pas possible de faire. Je veux dire, les universités françaises veulent aller sur ce terrain-là, on va bien se poiler. Et on va bien ennuyer des gens. Mais ça permettra de dire, dans un certain nombre de cas, qu'on n'a plus besoin d'avoir des cours magistraux. C'est peut-être pas complètement idiot, s'ils ne sont pas interactifs. Mais là, comme ça, réagit et que vous allez réagir tout de suite. Je m'arrête ici et en ayant un retour sur aussi sur le fait qu'on est accueillis. Et oui,
et oui, on remercie bien sûr nos amis des archives de nous accueillir ici parce que c'est un vrai cadeau aussi d'être là. Je voulais donner la parole à Sophie Béraud parce qu'elle va vous présenter rapidement le cycle. Enfin, les cycles d'ailleurs que vous avez mis en place cette année, mais en particulier sur le travail et le néolibéralisme. C'est la première conférence qui intervient la semaine prochaine, mardi. Et le 16, il y a une conférence ici. Donc le mardi, la première conférence est au TNP, la deuxième conférence est ici, sur les porte-paroles en politique, par Claude Gauthier. Et Sophie est là pour vous parler rapidement de son cycle sur le travail qui menace d'être très intéressant.
Merci beaucoup. C'est juste quelques minutes justement pour parler un petit peu de ce cycle travail néolibéralisme. S'il y a quelque chose qui devrait être un bien commun, c'est peut-être le travail. Donc je crois qu'il y a là des expériences partagées, un savoir-faire, tout ça pourrait être mis en commun et réfléchi à partir des valeurs d'usage, mais c'est pas tout à fait le cas, on le sait bien, hein, le travail, on le connaît au travers du travail salarié. Il me semblait intéressant justement d'avoir un cycle de réflexion sur ce qu'est le travail, de sortir un petit peu on nous parle beaucoup aujourd'hui d'emploi, on nous parle beaucoup du travail de façon indirecte au travers donc des politiques d'emploi, des conflits sociaux, on nous parle du travail au travers de la souffrance au travail. Et donc nous, on a eu envie de monter un cycle pour déconstruire un petit peu tout ça, réfléchir au travail comme dimension anthropologique, hein, de réalisation de l'être humain, à ce qui se joue dans le travail salarié, à ce qui se joue au travers de la transformation du travail, au travers de l'intensification, de toutes les politiques néo-managériales qui transforment le travail. Et donc on a pensé à faire cela. Alors là aussi je vais juste rebondir un petit peu sur ce qui a été dit, à la fois au travers d'un cycle de conférences et d'ateliers. Alors c'est pas encore tout très bien calé, parce qu'on innove un petit peu. Sur le cycle de conférences, donc c'est un cycle qu'on a pensé à deux, avec Nadine Noyer qui est ergonome, et moi-même, mais on va pas intervenir toutes les deux au départ en fait. On a plutôt essayé de réfléchir à comment vous proposer un certain nombre de connaissances sur le travail, en faisant appel à des sociologues du travail, à des psychologues, à des médecins du travail. Donc la première conférence, c'est une sociologue du travail qui s'appelle Danielle Linhart, hein, qui va revenir sur les formes de domination au travail et les critiques du néo-management. C'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup écrit sur les transformations de l'entreprise, l'entreprise néolibérale. La conférence est donc mardi. Ce mardi, 19h-21h au TNP. Il y aura une autre conférence le 16 décembre, hein, qui est sur la réduction du temps de travail, hein, réduire le temps de travail, une idée démodée, hein. C'est vrai que c'est une idée d'aspiration à la réduction massive du temps de travail qui a traversé le 20e siècle, hein. Quelque part on l'a quasiment enterré avec les 35 heures et les lois Aubry. Pourquoi on ne parlerait pas de nouveau de réduction massive du temps de travail? On a des sociétés qui produisent suffisamment de richesses pour envisager une réduction du temps de travail. Donc, est-ce qu'on peut revenir sur ce type de débat? Troisième conférence, ça sera avec Philippe Davezy, qui est médecin du travail, qui est de l'Université Lyon 1, qui fait beaucoup d'interventions auprès d'équipes militantes, dans les entreprises, auprès de salariés. On réfléchira avec lui sur de quoi le travail est-il malade, Moi, c'est plutôt l'entreprise qui rend le travail malade, en fait. Hein. Et puis, une quatrième conférence avec un psychosociologue qui fait des interventions dans les entreprises, Robert Cotura, sur mutation du travail et questions de santé. En fait. Alors, vous voyez, on va partir d'une approche assez large pour arriver à des questions plutôt de recherche-action. Et notre idée, c'est de proposer à la suite de ce cycle des ateliers plus réduits pour prolonger, en fait. Prolonger ces interventions. Il y aura des débats, bien sûr, à chaque fois pendant une heure, mais on pense que c'est peut-être pas suffisant. Il y aura plein de choses qui vont s'accumuler au fur et à mesure comme questionnement. Et donc, après ces conférences, on aimerait bien avoir un temps, donc en mars-avril, pour celles et ceux qui le souhaitent, revenir sur ces conférences, en débattre, à partir peut-être plutôt d'extraits de documentaires, on verra comment on va fonctionner, en fait. Voilà pour le cycle, et peut-être en lien aussi avec ce cycle, on vous invitera à une journée d'échange avec Yves Clos, hein, qui est aussi un psychosociologue du travail, qui a fait une journée en lien avec l'association Ciné-Travail, qui aura lieu à Oulin, sur filmer le travail, en fait. Hein. Voilà, donc on vous invite à venir nombreux et nombreux à la première conférence mardi de Daniel Lina.
Merci Sophie. Alors je remercie tous les intervenants de l'Université Populaire parce que franchement c'est une équipe formidable qui a des idées sans arrêt, c'est un vrai vivier d'idées, d'initiatives, ils sont toujours en train de proposer des choses nouvelles et intéressantes. Donc merci vraiment beaucoup à eux. Le Comédia avec qui on est partenaire annonce une projection en novembre, je réannoncerai la soirée sur un film qui s'appelle La Dette et qui me paraît aussi ancré dans les préoccupations d'aujourd'hui et qui sera fin novembre je crois avec le réalisateur et on demandera à un des intervenants de l'Université Populaire de bien vouloir animer le débat. Voilà, donc on vous propose d'aller boire un coup ensemble, en remerciant encore une fois la ville de Lyon qui nous permet tout ça aussi avec vous.